Bonjour à chacun. Stéphane l'a dit en début de culte, je crois que c'est vraiment la fin des vacances pour la plupart d'entre nous et le début d'une nouvelle année scolaire, ça y est, une nouvelle année scolaire est devant nous. Et donc ce matin, je vous propose de commencer tout doucement. On va commencer par trois histoires. Apparemment, même les grands enfants aiment les histoires. Et ces trois histoires, elles ont un point en commun. Et je vais vous laisser le deviner. Ces trois histoires sont largement inspirées par un enseignement qui a été donné en 2010 par un ami et un frère précieux pour moi, Samuel Patt. Il a déjà été ici avec sa femme. Donc c'est parti pour les trois histoires. Et j'espère que vous allez découvrir ce petit point en commun qu'elles ont, ces trois petites histoires. Imaginez que vous êtes dans un service après-vente d'un grand supermarché. Et voici une matinée typique pour vous. Vous allez recevoir des clients pas contents, pas satisfaits avec leurs produits. C'est lourd, mais bon, le travail, ce n'est pas toujours facile. Par contre, ce matin est un matin spécial pour vous. Les personnes qui viennent se plaindre, elles ont quelque chose de très particulier en commun. Rolly est le premier exemple. Il a fait des études en informatique. Il a récemment acheté un MacBook Pro dernier cri. Il vient vous voir et vous dit « Franchement, j'ai tout essayé, tous les différents types de pain, et j'aimerais vous dire que ce Mac est complètement nul comme grille-pain. J'ai dépensé une fortune pour un produit complètement nul. Je ne vous félicite pas. » Jonathan est le deuxième exemple. Il ne vient pas seul, il vient avec un ami, Yves. Père de deux enfants, il a décidé d'acheter un nouveau téléviseur Samsung. Furieux, il vient vous voir et vous dit « Non mais ce n'est pas possible, ça fait juste une semaine que je l'ai, il est déjà complètement bousillé. C'est quoi cette durée de vie ? Non mais franchement, un trampoline, ça doit être plus solide. » Mathilde et Clément sont vraiment tristes. Philippe est le troisième et dernier exemple. Et il vient aussi avec son ami Yves. Il est en pleurs, contrairement à ce qu'on peut voir sur la photo. Ayant récemment acheté une machine à laver, mélangeant colère et tristesse, il vous dit « C'est pas juste. Ça faisait 3 ans que je l'avais chez Hamster. Et puis son activité préférée était la roue. Oh, combien il aimait courir et courir. » Rolly, Jonathan, Yves, Philippe, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Mais en gros, c'était pour personnaliser un petit peu ces histoires. Mais oublions que ce sont eux dans ces histoires. Que pensez-vous de ces personnes? Elles sont bizarres, non? Elles n'ont absolument rien compris à la fonction du produit qu'elles ont acheté. Et c'est normal qu'elles soient déçues. Si nous ne comprenons pas la fonction d'un produit, nous serons forcément déçus par le produit. Et pire encore, nous allons probablement participer à sa destruction. Je pense que vous ne savez toujours pas où je veux en venir. Ce matin, je vais parler d'un sujet très important. Du sang a coulé. Un corps a été maltraité pour que cela puisse exister. Au travers du texte de ce matin, nous allons voir à quel point il est important de comprendre le but et le fonctionnement de la plus grande organisation sur la planète Terre, de la plus grande communauté sur la planète Terre et qu'on appelle l'Église. Sinon, nous serons forcément déçus. Au pire encore, nous allons participer à la destruction de l'Église. Enfin, c'est impossible, parce que Jésus, il a dit que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elles. Nous pouvons lire cela en Matthieu 16, verset 18, mais je pense qu'on peut garder en tête que nous pouvons faire un certain nombre de dégâts dans l'Église si nous ne comprenons pas le but de l'Église et comment une Église fonctionne. Lisons donc ensemble 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 12 à 27. Je vais donc lire ce texte, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne fait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ce texte nous encourage. Soyons le corps de Christ. Le corps humain est un chef-d'œuvre de Dieu. Le corps humain est une création merveilleuse de Dieu. Et ici, il nous est donné comme une image pour l'Église. Je ne suis pas du tout un scientifique et j'espère ne pas dire de bêtises en disant ce que j'ai pu trouver. Le corps humain dispose de milliards de cellules. Sans que nous n'y portions aucune attention, des centaines de millions de réactions chimiques ont lieu en permanence, non seulement selon les besoins de chaque fonction de l'organisme, mais aussi pour la coordination de ces différentes fonctions entre elles. Le corps humain est un gigantesque réseau de coopération totale et permanente où chaque plus petit constituant de l'organisme assure son rôle propre, tout en interagissant positivement avec l'ensemble. Waouh ! Le corps humain, Dieu le donne comme image pour l'Église. Nous venons de lire un texte qui fait partie de la lettre, d'une lettre écrite par Paul à l'Église de Corinthe. C'est une église dans une des plus grandes villes de l'Empire romain en Grèce. Paul est un apôtre. C'est un titre et un rôle bien particulier dans les débuts de l'Église chrétienne. Les apôtres ont mis les fondements à l'Église universelle. Le texte a été lu pour la Sainte Cène, Éphésiens 2:20. On voit que les apôtres, ils ont mis les fondements à l'Église avec un grand E. Paul connaissait très bien l'Église de Corinthe. C'est lui qui l'a fondée. Il a passé un an et demi, selon le livre d'Actes, au chapitre 18, verset 11. Mais cette Église, elle n'est pas du tout un modèle. J'espère que ce n'est pas l'Église que tu choisirais en arrivant dans une ville. Mais Paul commence cette lettre avec une attitude remarquable. Il remercie Dieu pour l'Église de Corinthe. Il est plein de reconnaissance pour cette Église. Et pourtant, cette Église, elle n'est pas du tout une Église modèle. Dans cette Église, je ne sais pas vraiment quel mot utiliser, mais c'était vraiment le bazar. Il y avait des divisions dans l'Église, de l'immoralité comme on n'en voyait même pas en dehors de l'Église. Il fallait quand même le faire. Il y avait un homme qui était avec la femme de son père. Il était avec la belle-mère, avec sa belle-mère. Et pourtant, c'était quelque chose de condamnable, même dans la loi romaine. Il y a des poursuites judiciaires entre les chrétiens de cette église. C'est incroyable, ils n'arrivaient pas à se pardonner. Pourtant, ça devrait être la base pour des gens qui parlent d'un Dieu qui pardonne. Je ne vais pas continuer à parler de nombreux autres problèmes qu'on peut retrouver dans cette église. Mais pour faire court, si Jésus était leur Seigneur, si Jésus était vraiment celui qui dirigeait leur vie, pour nombreux, ce ne l'était que dans leur bouche, parce que leur vie ne montrait pas la seigneurie de Christ. Dans ce contexte, il est tout à fait normal que dans l'église de Corinthe, des membres ne soient pas au service de l'ensemble du corps. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. Juste quelques versets avant le texte que nous avons lu, des versets 4, du verset 4 au verset 7, nous pouvons lire « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. » Nous sommes donc dans un contexte où Paul parle des dons donnés par l'Esprit. Selon le texte que nous avons lu au verset 27, nous pouvons voir que l'Église est un corps, mais pas n'importe lequel. C'est le corps de Christ. Dans le livre des Actes au chapitre 1, verset 8, nous pouvons lire, et c'est Jésus qui parle, après qu'il soit mort et ressuscité, et juste avant qu'il monte miraculeusement au ciel. Voilà ce que Jésus a dit. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus marche aujourd'hui de manière évidente sur cette terre. Son corps est toujours là, c'est l'Église. En tant que corps de Christ, nous devons pointer vers Christ. Nous devons faire connaître sa vie, son œuvre, son message. Nous devons vraiment pointer vers celui qui a radicalement changé nos vies aujourd'hui et pour l'éternité. Dans la manière comment nous vivons l'Église, est-ce que nous montrons que Jésus est véritablement notre Seigneur? En tant que corps de Christ, nous avons une grande responsabilité. Les personnes qui nous entourent ne doivent pas avoir une image négative de Jésus à cause de notre comportement. Est-ce que nous donnons envie à nos contemporains de connaître ce Jésus que nous aimons? Dans cette image du corps, nous pouvons voir qu'il y a diversité de dons qui sont donnés par l'Esprit. Nous aimons généralement être, enfin si vous êtes comme moi, nous aimons généralement être avec des personnes qui nous ressemblent quand même un petit peu. Mais le fait que Dieu nous ait donner des dons différents, qu'il ait fait de nous des membres différents, ne nous éloigne pas les uns des autres, mais au contraire, ça nous unit dans un corps, l'Église. Verset 12, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Jésus prend des gens là où elles sont, c'est-à-dire sur des chemins complètement perdus sans lui. Il est toujours prêt à les baptiser du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, qu'on connaît, je pense pour la plupart, a préparé la mission de Jésus. Et voilà ce qu'il disait, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Matthieu 3, verset 11. C'est Christ qui baptise du Saint-Esprit. Juif, grec, esclave, ou italien, français, anglais, australien, mexicain, portugais, etc. Ou personnes de différentes professions, de statut social, avec des goûts complètement différents. Dieu les unit. Dieu unit même des ennemis. Entre les juifs et les grecs, c'était pas toujours ça. C'est magnifique. Christ est prêt à prendre tout le monde. Il n'attend qu'une chose, qu'on vienne vers lui dans la repentance, qu'on reconnaisse notre état de pécheur, qu'on reconnaisse qu'on a désobéi à la loi parfaite de Dieu et qu'on accepte que la colère que nous méritions, Christ l'a payée à la croix pour nous. Dieu n'attend qu'une chose, qu'on se reconnaisse pécheur pour qu'il puisse nous pardonner. Un coupable ne pourra jamais être pardonné s'il ne reconnaît pas sa faute. Un chrétien est forcément membre de ce corps. Un chrétien est forcément membre d'une église. Et le texte nous montre au verset 13 que chaque membre a été baptisé de l'Esprit. Donc, le baptême de l'Esprit a lieu à la conversion. Dès que je deviens chrétien, je suis baptisé du Saint-Esprit, où ça se passe au même temps. Le jour où je reconnais que je suis pécheur, Dieu me pardonne et m'intègre dans son corps qui est l'Église. Quel était donc le problème ou les problèmes du corps de Christ à Corinthe? Je dirais que ce corps n'était pas actif parce que certains membres n'étaient pas actifs comme ils le devraient et que ce corps aussi n'était pas solidaire. L'unité n'était pas du tout une réalité dans l'église de Corinthe. Je crois que nous pouvons dire que ce texte nous encourage en disant « Soyez le corps de Christ actif et solidaire ». Il y avait des membres qui n'étaient pas actifs dans l'église de Corinthe. Pourquoi ? Parce qu'ils perdaient leur temps avec des discussions et des pensées inutiles. Verset 15, voilà ce qu'on peut lire. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps ». Voilà un peu les pensées et les discussions un peu inutiles qu'il y avait à l'intérieur de cette église. Vous savez, le pied est moins visible que la main. La main est moins agile que le pied. Vous voyez où je veux en venir? Je ne vais pas pousser l'image jusqu'à l'extrême. Mais en gros, les Corinthiens, ils se comparaient les uns aux autres. Et ceux qui pensaient avoir des dons moins visibles, des services un peu plus cachés, commençaient peut-être à ne pas utiliser leurs dons. Ils commençaient à ne pas être un membre au service de l'ensemble du corps. D'autres étaient sûrement enflés d'orgueil pour un don qu'ils avaient reçu. On peut lire au verset 21, « Je n'ai pas besoin de toi. » C'est bizarre comme pensée. Lisons ensemble le verset 21 en entier. « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. » Les membres qui sont les moins visibles, les membres qui sont les plus discrets, sont très utiles. Les membres que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, nous dit le verset 23. L'intérieur de mes oreilles, ce n'est pas normalement ce que les gens voient en premier. Mais j'en prends soin. C'est important pour moi. Et au quotidien, mes oreilles me sont très utiles. Imaginez qu'il manque quelqu'un pour appuyer sur un simple bouton d'un ordinateur pour afficher les paroles des chants. Ça sera vraiment plus dur de chanter ensemble, nous l'avons vu. C'était un peu dur quand ça s'est éteint. Non, c'était un peu plus dur. Peut-être que vous le connaissez par cœur. Moi, je ne le connaissais pas forcément. Imaginez que tous les dimanches, personne ne prépare le pain et le vin pour la Sainte Cène. Dimanche après dimanche, personne ne prépare ce service. Jamais nous pourrions nous rappeler ensemble de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, chose que Jésus nous a demandé de faire. Beaucoup de membres dans cette église travaillent dans l'ombre. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont visibles. Et j'aimerais que tous ceux qui se reconnaissent dans ces services soient encouragés ce matin. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Merci pour votre travail. Nous ne le voyons pas forcément, mais nous le sentons. Dieu le voit et est glorifié par votre travail. La main est un membre qui est bien visible. Et en gros, son exposition lui donne déjà une certaine reconnaissance. Mais le pied, il n'est pas très mis en valeur. C'est peut-être quelqu'un qui prie, qui porte l'ensemble de l'Église dans ses prières. Et si l'un de nous le sait, dites-lui à quel point ces prières sont importantes. Je suis à chaque fois touché par des personnes qui sont à l'hôpital et nous recevons des nouvelles et ils nous disent « Je prie pour l'Église ». Est-ce que nous réalisons l'impact que ces prières elles ont peut-être dans la vie de notre Église ? Pour que l'ensemble du corps soit actif, il faut que chaque membre accepte sa place et soit humble. Comment accepter sa place et être humble dans ce corps qu'est l'Église ? Je crois que la clé est au verset 28. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Je relis le verset. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Frères et sœurs, il y a ici une vérité très importante. Chaque membre est très utile pour le corps. Il n'y a personne dans cette église qui est plus importante l'une que l'autre. Qu'on soit grand-père dans la foi ou bébé spirituel, qu'on fréquente cette église depuis des années ou qu'on vienne juste de la rejoindre. Si tu es un membre, Dieu t'a placé comme il l'a voulu dans ce corps. Est-ce que tu vas accepter le rôle qu'il veut que tu joues ? Dieu ne veut pas qu'on vive la vie de quelqu'un d'autre. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est précieux avec les dons que Dieu lui a donnés pour l'ensemble du corps. Acceptons-le et soyons humbles. C'est Dieu qui fait de nous ce qu'il veut, comme il veut, pour le bien du corps et pour sa gloire. La jalousie et le mépris sont juste impossibles dans le corps de Christ. Nous sommes complémentaires et de même valeur. John Stott, un membre du corps de Christ remarquable, il est décédé en 2011, il a écrit quelque chose dans l'un de ses livres qui m'a profondément touché et encouragé à servir le corps de Christ. Parce que si je suis un membre, tout le corps a besoin de moi. Voilà ce qu'il a dit. Une église fait penser davantage à un autobus, un chauffeur, beaucoup de voyageurs somnolents, qu'à un corps dans lequel tous les membres sont bien vivants et où chacun contribue par une activité précise à la santé et l'efficacité de l'ensemble. Je relis. Une église fait penser davantage à un autobus, un chauffeur, beaucoup de voyageurs somnolents, qu'à un corps dans lequel tous les membres sont bien vivants et où chacun contribue par une activité précise à la santé et l'efficacité de l'ensemble. Quelques questions pour nous. Est-ce que je dors et je laisse faire le chauffeur ? Est-ce que je dors et je laisse faire les autres ? Est-ce que je veux être un membre qui vit et qui contribue à la santé et l'efficacité de l'ensemble du corps ? Henri Briand est un autre membre que je trouve remarquable dans le corps de Christ. Pas mal de vous, je pense que vous le connaissez beaucoup mieux, que vous l'avez connu beaucoup mieux que moi. C'était un membre d'une église dans la région, l'Épège, qui est devenue l'Épègue par la suite, pour ceux qui connaissent. Jusqu'à la fin de sa vie, dans son lit d'hôpital, cet homme, il a servi le Seigneur. J'ai été bouleversé par un médecin qui a fréquenté cette église et qui m'a raconté un petit peu de la fin de sa vie. On priait ensemble pour lui, mais je n'ai jamais su, enfin, je ne savais pas que c'était lui. Je n'ai su qu'une fois qu'il est décédé. Et Henri Briand, dans son commentaire sur la lettre de 1 Corinthiens, a écrit « Le Seigneur ne nous sauve pas pour être des spectateurs dans son Église, mais il donne à tous et à chacun un ou plusieurs dons qui se manifestent dans sa vie en vue du service et de l'édification de l'Église. » Trop souvent, nos églises ressemblent à des matchs de foot où l'on peut trouver 22 équipiers qui ont besoin de repos et des dizaines de milliers de spectateurs qui ont besoin d'exercice. Paul énonce également une autre pensée importante pour le fonctionnement de l'Église. Chaque membre a un rôle dans l'Assemblée. Chacun est utile. Pour rester dans l'image du foot, pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le terrain de l'Église. Je pensais que ma place était dans les tribunes, même pas sur les bancs des remplaçants. Je voyais des joueurs très très bons. Je me disais, mais ils sont très bons. Il n'y a rien à faire. Mais voilà la réalité. Si c'est toujours les mêmes qui jouent, ils vont finir par se fatiguer. Ce terrain qu'est l'Église, il se multiplie. Ce terrain qu'est l'Église, j'espère que c'est notre but, il se multiplie, il grandit. Et Dieu, comme un bon entraîneur, nous placera toujours à la bonne place pour faire gagner l'équipe. Soyons donc le corps de Christ actif. Et pour cela, chaque membre doit être actif. Et maintenant, on va voir un petit peu comment ce corps peut être solidaire. Le verset 26 dit que si un membre souffre, les autres doivent prendre soin de lui. Peut-être en priant, en l'entourant. Et si un membre est honoré, il ne doit pas mépriser les autres. Les autres ne doivent pas se comparer à lui. Mais tout le corps doit se réjouir. C'est Dieu qui fait l'œuvre dans ce membre qui est honoré. Imaginez que je me blesse le doigt d'un pied. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que mon œil va vouloir regarder ce qui se passe. Une de mes mains va probablement s'approcher pour commencer à soigner. Vous voyez, notre corps humain, il est super solidaire. Je trouve qu'il est super solidaire. Les membres de l'Église doivent être solidaires. C'est ce que Dieu nous demande, je crois, au travers de ce texte. Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Je dois confesser parfois mon cœur dur. Je ne me réjouis pas parfois comme je devrais. Je ne pleure pas comme parfois je devrais. Demandons-le au Seigneur. Il peut le faire. Je conclus avec le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Est-ce que nous pouvons dire ensemble que nous sommes le corps de Christ? Est-ce que tu peux dire avec la personne qui est à ta droite, à ta gauche, nous sommes le corps de Christ, actif et solidaire? Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que si c'est le cas, et que ce n'est possible en fait, que grâce à Jésus. Dans Colossiens chapitre 1, verset 18, nous pouvons lire, « Il est la tête du corps qu'est l'Église. » C'est une autre image, et je trouve que c'est intéressant de les mettre ensemble. Est-ce que chacun de nous a une relation avec la tête, Jésus? Est-ce que tu as une relation avec la tête, Jésus? Ça a déjà été dit, mais ce matin est une super opportunité. Accepte son pardon et laisse-le donner, laisse-le lui te donner un rôle dans la plus grande communauté sur terre, l'Église. Ne rejoins pas juste des réunions. Ne viens pas juste le dimanche. Rejoins ce corps vivant. Sois un membre vivant qui aide ce corps à être actif et solidaire. Ce corps n'a qu'une envie, faire connaître Jésus. N'oublions pas de cultiver notre relation avec Jésus. C'est la base, je le sais, mais combien de fois je dois le rappeler dans ma vie. On peut très vite tomber dans l'activisme, on peut très vite vouloir faire plein de choses, mais la base se trouve dans notre relation avec Jésus. Nous ne serons jamais un membre efficace si nous n'écoutons pas celui qui est à la tête, Jésus qui dirige tout. Je vous invite à prier. Je vais lire une prière qui se trouve dans Hébreux 13, du chapitre 20, du verset 20 au verset 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour vous, à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.